le 7-9.
Et soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 17 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, que reste-t-il de nos deux mois de confinement débutés le 17 mars dernier, il y a pile six mois. Parole de confinés heureux ou anxieux, alors que le ministre de la Santé remonte au créneau pour défendre la politique du gouvernement en matière de lutte contre le Covid. On voit tout ça, après les autres titres.
Et justement, au cœur du dispositif, un meilleur accès aux tests et des résultats plus rapides, un décret a été signé hier soir. Une réunion lundi sur l'avenir du site de Bridgestone de Béthune, quand les Républicains veulent prouver que la gauche n'a pas le monopole du verre. Et puis un millésime 2020 qui s'annonce exceptionnel pour les champagnes.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Si je vous dis heure bleue, voix magnétique et lunettes de soleil en forme de cœur, vous me répondez, Nicolas ?
Laure Adler.
Laure Adler, bien connue de nos auditeurs, sort un livre sur la vieillesse, comment elle est dure à vivre, comment elle est belle aussi. Elle vient nous en parler à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, au micro d'Inter. Question dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était le temps des attestations, des apéros Zoom, des films en famille, des ateliers pâtisserie et de l'école à la maison. Il y a tout juste six mois, le 17 mars dernier, débutait donc le confinement. Alors que les services de réanimation étaient débordés par le nombre de malades atteints du Covid-19. À l'origine, pour une durée de 15 jours, il a finalement duré jusqu'au 11 mai. Deux mois durant lesquels nous avons vécu enfermés, avec pour seule sortie les courses et le tour du pâté de maison. Alors, quels souvenirs gardons-nous de cette période ? Reportage de Mathilde Montagnon de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Il y a ceux pour qui ça a été une période très difficile.
J'ai très très mal vécu au début, mais j'ai dit, mais je vais jamais m'en remettre. Enfin, je vais jamais pouvoir gérer ça.
Ceux qui ont fait le dos rond.
J'ai laissé passer le temps, quoi. J'ai attendu. On a attendu que ça se passe.
Et ceux qui finalement repensent à cette période avec nostalgie.
Alors moi, c'est un bon souvenir parce que mon bébé venait de naître. On va dire que c'était un bon moment. Bah, on nous reconfinerait, ça ne dérangerait pas à outrance, quoi.
Souvent, la différence vient du logement.
Moi, je pensais à ceux qui étaient dans les immeubles et qui étaient dans genre deux pièces ou une pièce et qui ne pouvaient pas bouger. Là, c'était terrible pour eux. Nous, ça allait, nous. On a un terrain, on ne va pas se plaindre. Hein.
Mais pour beaucoup, cela a été l'occasion de ressouder la famille.
Ça a permis de se rapprocher au niveau de la famille. Ouais. C'est vrai que ça resserre des liens, ça a permis de se retrouver, quoi.
Avec des leçons, peut-être, à en tirer.
Rester vraiment avec sa famille et profiter. Lever le pied, je pense qu'on travaille trop, puis ouais. Ça a mis pas mal de choses à plat et du coup, ça permet ouais, d'aller de l'avant, ouais. Vraiment de se reconstruire. Ouais.
Certains ont décidé de déménager, de changer de métier. D'autres ont repris leur vie comme elle s'était arrêtée. La question désormais est de savoir si ce confinement pourrait recommencer.
Et c'est effectivement toute la question, alors que près de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministre de la Santé va de nouveau monter en première ligne avec une prise de parole cet après-midi pour expliquer et détailler la stratégie anti-Covid du gouvernement. Et il fera désormais un point toutes les semaines. Question centrale aujourd'hui, les tests. La circulaire autorisant l'utilisation de tests antigéniques vient d'être publiée. Il faudra toujours dans un premier temps utiliser l'écouvillon dans les narines, mais le résultat sera beaucoup plus rapide. Mode d'emploi avec le docteur Catherine Pogam, directrice adjointe de la PHP.
Les tests antigéniques, on peut les faire sur l'écouvillon, comme d'habitude, ou on peut les faire éventuellement sur la salive. Et donc, au lieu d'amplifier le virus, cette fois-ci, on cherche une protéine du virus avec un petit anticorps qui se promène et qui va se fixer sur cet antigène. Ça déclenche une petite réaction colorée. Ça ressemble un peu au test de grossesse. Il y a deux barrettes et quand c'est positif, il y en a deux qui s'allument et ça prend 30 minutes. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, c'est des tests qui s'appliquent vraiment au dépistage, pas du tout sur des gens qui sont malades. C'est très important. C'est vraiment pour du dépistage de masse. Ça permet d'aller vite et ça permet effectivement de tenir compte du fait que c'est un peu moins sensible, mais ça répond à je peux trouver des positifs rapidement et puis derrière, surtout, je peux leur dire isolez-vous, qui sont vos contacts.
Un propos recueilli par Daniel Messager. Et pour soulager les laboratoires, les kinés ont désormais le droit de pratiquer des tests PCR. Ils sont 90 000 en France. Parmi les villes où de nouvelles contraintes pourraient être annoncées, Lyon et Toulouse, où les indices se dégradent. En Inde, le cap des 5 millions de cas vient d'être atteint, avec 1 million de nouveaux malades en seulement 11 jours. Une étude récente menée à Bombay montre que dans les bidonvilles, où pourtant les mesures sanitaires sont beaucoup plus difficiles à respecter, les habitants résistent mieux au virus. Correspondance en Inde de Sébastien Farcy.
Près de 7000 personnes ont été testées à Bombay pour savoir si elles ont développé des anticorps contre le Covid-19 et donc si elles ont été infectées dans les mois passés. Et les résultats sont étonnants. 16% des résidents en appartements ordinaires ont été contaminés et 57% de ceux en bidonville. Ces derniers, qui partagent souvent des toilettes ou des logements exigus, ont donc été fortement contaminés. Mais les bidonvilles n'ont pas pour autant connu d'hécatombe. Ceci veut dire que ces populations pauvres ont bien résister au Covid-19. C'est ce qu'explique Oulas Koltour Sitaram, le biologiste du centre de recherche TIFR qui a dirigé cette étude.
Le taux de mortalité est bien plus bas dans les bidonvilles que dans les autres quartiers. Cela peut être dû au fait qu'ils sont déjà exposés à beaucoup de maladies et ont développé une meilleure immunité, ou au fait que c'est une population un peu plus jeune, ou enfin, c'est possible qu'ils souffrent de moins de maladies. En tout cas, il est clair qu'ils ont été plus robustes.
Une étude similaire menée à New Delhi a montré que 25% des habitants de la capitale y ont été contaminés, ce qui ne semble pas suffisant pour constituer une immunité, car après une légère baisse en juillet, le nombre de cas repart à la hausse depuis la mi-août. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Enfin, la concurrence fait rage au niveau mondial pour s'approprier un futur vaccin. Un groupe de pays riches représentant 13% de la population mondiale a préacheté la moitié des futures doses de vaccins selon un rapport de l'ONG Oxfam. Parmi ces pays, les États-Unis et l'Union européenne.
Il est 7h06. Une réunion aura lieu lundi, Agnès, sur l'avenir du site Bridgestone de Béthune.
C'est la ministre déléguée à l'industrie qui l'annonce. La réunion se tiendra en présence des dirigeants européens, du fabricant de pneus japonais, des élus locaux et des représentants du personnel. L'annonce hier de la fermeture du site qui emploie 863 personnes a provoqué la colère des salariés et du gouvernement qui parle de trahison. Le groupe ayant bénéficié de multiples aides du gouvernement car le site est en difficulté depuis plusieurs années. Stéphane Le Six est le secrétaire du comité social et économique de Bridgestone.
Nous, ça fait un an, de toute façon, même deux ans, on voit dans l'usine, ça tourne plus. Ça veut dire que il y a plus de travail, quoi. Et je vous dis, niveau qualité, c'était devenu une catastrophe. Niveau production, c'est devenu une catastrophe. Et on voyait plus de grosses têtes, on voyait plus de directeur, on voyait plus de directeur de production. On était livré à nous-mêmes. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Ouais. Pour nous, c'était fait d'avance. Donc voilà. Nous, on voulait que de l'investissement. Et à l'époque, ils nous ont proposé que 6,5 millions d'investissements sur trois ans. Donc c'est totalement dérisoire. À côté de ça, les autres, c'était des millions d'euros sur trois ans qu'ils récupéraient. Eux, ils avaient les machines, des nouvelles machines. Nous, le problème, c'est que, bah, je vous dis, vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'à l'arrache, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé, là.
Un témoignage recueilli par Claire Mesureur de France Bleu Nord et nous serons en direct de Béthune dans le journal de 8h. Et les mauvaises nouvelles se sont accumulées hier. La chaîne Top Office, spécialisée dans le matériel de bureau, va fermer 6 magasins et supprimer 105 postes. Le traiteur de luxe Fauchon ferme 2 de ses 3 magasins de la place de la Madeleine à Paris. 77 licenciements à la clé. Le gouvernement, qui table pourtant sur une croissance meilleure que prévue en 2021, plus 8% après moins 10 cette année. Le projet de budget est transmis en cette fin de semaine pour avis au Haut Conseil pour les finances publiques. Delphine Simon.
La croissance est meilleure que prévu, ou en tout cas la récession moins pire, explique Bercy. Moins 10% cette année. Les derniers chiffres de l'INSEE incitent à un peu plus d'optimisme. En juin, juillet et août, les Français ont plus consommé de biens durables, des voitures, des réfrigérateurs, des téléphones mobiles. Le carnet de commandes dans l'industrie s'est mieux rempli que prévu, note la Banque de France. Un rebond plus fort grâce au plan de relance, affirme l'exécutif. Difficile de savoir quelles sommes seront effectivement déboursées cette année et l'an prochain. Mais ce rebond d'activité, c'est mécanique, il représente plus de recettes dans les caisses de l'État. Le déficit pourrait donc déraper moins que prévu. Si le gouvernement ne prévoit dans son scénario aucune nouvelle mesure de confinement, la résurgence de l'épidémie ces dernières semaines va encore peser fortement sur des secteurs comme le tourisme et les loisirs. Malgré tout, l'an prochain, Bercy table sur un rebond plus marqué, 8%. Une telle performance serait bien supérieure à celle de nos voisins, selon la Banque Centrale Européenne.
Le mouvement s'annonce peu suivi à la SNCF et dans l'éducation nationale. La CGT, Solidaire et la FSU appellent aujourd'hui à une journée de mobilisation, estimant que l'argent du plan de relance bénéficie plus aux entreprises qu'aux salariés. Les Verts, on les combat ou on les suit? Emmanuel Macron a visiblement choisi la première stratégie en comparant les anti 5G à des Amish, la droite, elle, essaie tant bien que mal de verdir son discours et ses actes. Élodie Forêt.
Dernier fait d'armes écolo de la droite, le Grenelle de l'environnement en 2007. Mais en 2010...
Je voudrais te dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Ça commence à bien faire.
Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture met le holà depuis silence radio. Sauf qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue incontournable. Enjeu majeur pour les Français de toute sensibilité. Des Français qui, s'ils jugent sévèrement les LR sur la question, ne sont pas non plus convaincus par les autres partis, selon une enquête de l'IFOP. Son directeur général adjoint, Frédéric Dabi.
Jamais l'environnement n'a été autant au cœur des préoccupations malgré la crise. Et pour autant, les forces politiques peinent à prendre en charge cette attente. Donc, il y a peut-être un espace à droite qui passe peut-être par la crédibilité locale.
La droite aurait donc un espace si elle s'appuie sur son maillage local, sur des thèmes aussi où elle est crédible, agriculture, made in France. Une écologie positive et pas punitive, répète Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
C'est pas une écologie qui sanctionne, qui buzz sur des faits d'actualité. C'est une évolution des comportements par la responsabilité et non par la sanction et la punition.
Voilà pour la théorie. Les propositions concrètes, elles, seront dévoilées dans un livret en novembre, alimenté entre autres par le Tour de France d'Aurélien Pradier qui fera du paddle dimanche à Marseille pour la première étape. Sur l'écologie, la droite sort littéralement les rames.
Le Tour de France cycliste avec une dernière étape dans les Alpes aujourd'hui, 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Le maillot jaune a tué le suspense hier en terminant deuxième de la dantesque étape remportée par le Colombien Lopez. Enfin, ils avaient le sourire hier, les vignerons champenois, au moment de dresser le bilan des vendanges. Vendanges très précoces cette année en raison de la chaleur et d'une météo particulièrement favorable. Avec un raisin de grande qualité, la cuvée s'annonce splendide. De quoi réconforter les professionnels. Reportage de Rémi Brancato.
De mémoire de vignerons champenois, on n'avait jamais connu des vendanges aussi précoces débutées mi-août à Villers-sous-Châtillon chez les charpentiers. Marie-Pierre représente la cinquième génération.
On a fêté les 97 ans de ma grand-mère un 31 août avec des vendanges terminées, ce qu'elle avait rarement connu. Pour autant, la qualité était excellente.
Avec un record de pluie en février et de sécheresse en juillet, le raisin est exceptionnel, assure Damien Champy, le secrétaire général du syndicat des vignerons de Champagne, avec en plus juste quelques gouttes au début de l'été.
Si Dieu existe, il est certainement champenois, parce que ça fait quelques années où on a ces pluies au bon moment pour débloquer la maturité et nous amener des millésimes de qualité. Tout est réuni pour que ce soit une très très belle année.
Reste à savoir si ce millésime compensera les pertes de la crise sanitaire, des ventes quasiment à l'arrêt au printemps. Alors pour sauver les prix, explique Maxime Toubar, le président du syndicat, on a récolté 20% en moins.
Notre ambition, c'est de maintenir la valeur du produit. On a estimé qu'on allait perdre environ 80 millions de bouteilles de champagne, donc il a fallu baisser les rendements pour adapter la voilure.
Et ces bouteilles de 2020, moins nombreuses donc, arriveront d'ici 3-4 ans à la fin de la crise, estime Damien Champy.
Ces bouteilles issues de la vendange 2020 seront disponibles sur le marché au moment de la reprise. On pourra fêter et déboucher des bouteilles de champagne à ce moment-là.
En attendant, le syndicat espère une réouverture des lieux de consommation, comme les discothèques.
Alors ce n'est pas tout à fait encore à l'ordre du jour, c'était un reportage de Rémi Brancato.
Merci Agnès Soubiran.